Dans cette seconde heure du séminaire, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect qui a été abordé seulement de manière indirecte lors des précédentes séances, c'est-à-dire la place du Livre des Rois entre la tradition littéraire de l'Iran ancien et celle de l'époque de son auteur. Comme nous approchons de la fin de ces séances, la dernière aura lieu le vendredi 2 juin, on peut essayer de dresser une sorte de bilan des thèmes qui ont été abordés jusqu'à présent. Ce que je retiens, et c'est un point de vue totalement subjectif, c'est que l'on a rarement parlé du Livre des Rois pour ce qu'il était. Une œuvre poétique, avec ses contraintes et ses libertés, et qu'on l'a le plus souvent confronté et comparé à ce qui n'était pas toujours dans l'œuvre de Ferdowsi, et à ce qu'on a voulu lui faire dire, à travers des images, des objets, des récits folkloriques, au cours des différentes époques. On a aussi poussé le Shahnameh vers ses limites géographiques. On a parlé du Haut Badakhshan, souvenez-vous, du Caucase dernièrement, et de ses limites conceptuelles et symboliques, avec sa projection notamment dans le présent. Pour poursuivre cette même trajectoire entre le Shahnameh et ses marges, et ses approches comparatistes adoptées volontairement ou non d'ailleurs, lors des précédentes séances, j'aimerais à mon tour confronter le Shahnameh de Ferdowsi à son passé littéraire, à ses antécédents stylistiques, aux strates textuelles qui l'ont précédé, dans le but de comprendre ce qui distingue le récit de Ferdowsi de ses prédécesseurs et de ses modèles, non seulement en termes de narration, de style, etc., mais essentiellement en référence à des notions religieuses, les références à la religion de l'Iran ancien, le zoroastrisme, qui occupe, comme on le sait, une place non négligeable dans ce livre. C'est une grille de lecture que j'ai adoptée parmi d'autres. Alors d'emblée, deux clarifications. Si je précise Shahnameh de Ferdowsi, c'est bien sûr parce qu'il y a eu des Shahnameh qui n'étaient pas de lui. Avant d'être un livre, le Shahnameh est un genre. Et deuxième point, les références religieuses sont à mon avis cruciales, car, vous le savez, Ferdowsi, vraisemblablement un musulman de confession chiite, qui dédie à un sultan sunnite une œuvre qui glorifie des personnages zoroastriens. Voilà, on a été tenté de dire à de nombreuses reprises que dans un contexte où les sensibilités religieuses, voire des intolérances et leurs conséquences souvent fâcheuses ne sont pas totalement à exclure, Ferdowsi a dû avoir recours à une forme de censure, de manière à rendre sa poésie plus islamo-compatible. Alors, sans toutefois exclure les éléments zoroastriens, il aurait, selon certains, adapté la thématique religieuse à son public. C'est la conclusion à laquelle aboutissent généralement les études, encore dernièrement, les études consacrées à la perception du zoroastrisme dans le Livre des Rois de Ferdowsi. Essayons de voir aujourd'hui, à travers des textes, ou un texte que je vais vous présenter en détail, essayons de vérifier à quel point cette hypothèse peut être encore défendue. Cette question est étroitement liée à un problème qui n'est toujours pas et ne sera sans doute jamais résolu, celui des sources du Shahnameh de Ferdowsi. Comme on l'a déjà vu lors des séances précédentes, composer un Shahnameh n'est pas un acte anodin. C'est un engagement, c'est une revendication politique et identitaire. Et c'est justement à l'époque samanide que trois ingrédients pour écrire un Shahnameh sont présents. D'abord, la revendication identitaire iranienne et le rattachement aux racines, aux origines anciennes. Puis, la présence de souverains éclairés qui vont commanditer de telles chroniques pour mieux s'y projeter. Et enfin, la langue du Xe siècle, le persan d'alors, possède à la fois la force et la malléabilité pour se faire l'écrin d'une composition d'un Shahnameh en vers ou en prose. Alors, parmi les Shahnameh connus avant celui de Ferdowsi, on peut citer celui de Masoudi Marrazi de 912, dont il ne reste que trois ou peut-être quatre vers cités par Mardassi en 966. Il y a le Shahnameh d'Abu al-Muayyad Balkhi, appelé autrement le Grand Shahnameh, qui est en prose, où les épopées sistaniennes y tenaient une grande place, y compris dans les épisodes dont Ferdowsi n'a pas tenu compte ou qu'il a relayé au second plan. Il y a également le Shahnameh d'Abu Ali Muhammad Balkhi, dont Biruni nous donne quelques extraits. Il se serait basé sur des traductions arabes, dont une d'Ibn Mourafa, texte qu'il aurait confronté à des récits zoroastriens. On a récemment exprimé quelques doutes sur la véracité de cette notice de Biruni. Et puis il y a les charnomés que Ferdowsi a vu utiliser. Le plus connu, c'est celui d'Abu Mansour, le charnomé d'Abu Mansour, commandité par Abu Mansour Abdelrazor. C'est un gouverneur local, issu de l'aristocratie, c'est un dehqan, voilà, l'aristocratie locale de la ville de Tous, la même ville que Ferdowsi. Il est vassal des Samanides et il est le commanditaire d'un charnomé en prose. On sait, Ferdowsi le dit lui-même, que le poète a bénéficié de l'aide financière du fils de ce Abu Mansour al-Razor, un fils extrêmement généreux, magnanime, sans doute le véritable patron et le seul patron de Ferdowsi. Patron qui malheureusement est exécuté en 987, et c'est un réel tournant dans la vie de Ferdowsi, et à partir de ce moment, il va commencer à faire allusion à sa pauvreté, à sa vieillesse, à l'inconfort de sa vie. Je reviendrai sur l'introduction de ce charnomé d'Abu Mansour. Il y a également le charnomé écrit par Abu Mansour, il n'y a que des Abu Mansour dans cette histoire, Abu Mansour Dariri, un poète, un panégyriste de la cour samanide, mort vers 975, qui avait commencé probablement dans la même ville, dans la ville de Tous, à composer un charnomé à l'instigation du prince samanide Nuh. Ferdowsi dit avoir voulu continuer l'œuvre de Dariri après sa mort en donc Ferdowsi aurait commencé en 976 ou 17 par exemple. Il précise que Dariri est mort avec des mœurs répréhensibles et qu'il est mort assassiné par un serviteur. Ferdowsi dit avoir voulu se rendre à Bukhara, la capitale, pour chercher le livre que lui-même appelle Nameye Shahvar, le livre du souverain, ou Name Asgahe Boston, le livre des anciens temps, ou encore Namvar Name, le livre des renommés. Un livre qui devait appartenir à la bibliothèque de la cour. Auparavant, il prend soin de nous préciser que ce livre avait été dispersé, que de vieux mobèdes en possédaient chacun une partie, et qu'un Pahlavan anonyme, un pré-chevalier d'une noble lignée, un dehqan encore, avait rassemblé tous ces morceaux. Heureusement, Ferdowsi avait un ami dans cette ville de Tous qui lui procure un exemplaire de ce livre. Alors, je cite ici l'édition des références de Jalal Khaleri Motlar, coédité avec Mahmoud Omid Solor, qui est vraiment l'édition à laquelle il faut se référer, et qui fait autorité. Et pour quelques vers en français, je citerai la traduction dont a parlé tout à l'heure Delphine, que Pierre Lecoq a mis généreusement à notre disposition, qui paraîtra cette année ou l'année prochaine aux Belles Lettres, en deux tomes. Et ça sera une traduction intégrale en vers, en français, du Charnamé de Ferdowsi. به شهرم یکی مهربان دوست بود که با من تو گفتی زهم پوست بود مرا گفت خوب آمد این رای تو به نیکی خرامد همی پای تو نبشته من این دفتر پهلوی به پیش تو آرم نگر نقنوی گشاد زبان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانیت هست شو این نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزد مهان Oh, ben oui. J'espère que vous pouvez lire la traduction à l'écran. Donc cet ami lui dit, je t'apporte un livre, Pahlavi, puisque tu connais la parole Pahlavani. Ces vers et quelques autres assez semblables sont à l'origine d'une polémique sur la langue des sources de Ferdowsi et sur ses connaissances linguistiques par la même occasion. Pour une raison très simple, c'est que le mot Pahlavi est d'une telle richesse sémantique qu'il en devient ambigu, surtout quand il est employé dans un contexte poétique comme celui-ci. Alors s'il a le même sens que pour nous, c'est le dialecte moyen-iranien méridional, langue vernaculaire des Sassanides, puis sociolecte de la communauté zoroastrienne, le moyen perse. Mais il peut également signifier beaucoup d'autres choses, beaucoup moins précises. Un dialecte qui n'est pas celui de la cour, une chose qui a un caractère vénérable des temps anciens, voilà, des prestiges anciens, et par extension, tout écrit ou livre ancien qui contenait la sagesse des aïeux. Tout cela peut être qualifié de parlavis. Alors, s'il s'agit de la langue dans l'extrait de Ferdowsi, cela signifie que la source principale, donc le Shahnameh d'Abu Mansour, est lui aussi en Pehlevi. Or, ce Shahnameh, il en reste un morceau, c'est son introduction. Et cette introduction, pour l'avoir lue, je peux vous dire qu'elle n'est pas en Pehlevi, elle est bien en persan, et je peux même vous dire que ce persan n'est pas une traduction du Pehlevi. Peut-être seulement quelques mots ont été traduits ou empruntés au moyen perse, mais ce n'est pas en tout cas une œuvre zoroastrienne. Pour une raison très simple, c'est que la généalogie des premiers hommes qui est décrite n'est pas celle des rois ou des premiers hommes iraniens. C'est une généalogie qui commence avec Adam, qui continue avec Noé, Moïse et Jésus, etc. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'introduction de ce Shahnameh d'Abu Mansour, c'est qu'elle raconte la même histoire du livre dispersé auprès des mages aux quatre coins de l'Iran et recomposé en un livre unique et complet. Donc la même vision holistique du livre avec un grand L. Donc, pour moi, il est évident que c'est un topos littéraire, le célèbre topos littéraire que l'on retrouve avec exactement les mêmes motifs à propos du livre des Zoroastriens, l'Avesta, mais aussi dans la littérature occidentale médiévale, comme l'a reconnu depuis longtemps Dick Davis dans un article de 1996. Lui, il y voyait plutôt dans l'utilisation de ce topos un stratagème de la part de Ferdowsi pour légitimer l'usage de sources orales, alors qu'il me semble que c'est une figure littéraire assez courante, utilisé dans les ouvertures de récits, qui va transformer la rédaction même de l'ouvrage en fiction. C'est une sorte de mise en abîme. Il est donc impossible de tirer des conclusions à propos des sources des livres qui sont ainsi décrits. Il n'en reste pas moins que la question qui revient très souvent dans les débats sur les sources de Ferdowsi est aurait-il pu lire des sources en moyen perse ? Est-ce qu'il était capable de lire le Pehlevi que vous avez par exemple à l'écran ? Était-il familier des araméogrammes et de l'ergatif, des adjectifs, des suffixes abstraits ou des suffixes adjectivaux ? Certains se reconnaîtront dans ces questions. Mon avis rejoint celui exprimé il y a plus de 45 ans par Gilbert Lazare, un Dehran éduqué au Xe siècle, capable de manipuler le persan et ses archaïsmes comme Ferdowsi le fait, n'avait aucune difficulté à comprendre le Pehlevi, et j'ajouterais, si on le lui lisait ou on le lui récitait. En revanche, rien ne permet de dire que Ferdowsi ait eu quelques notions d'épigraphie. Alors, Ferdowsi cite aussi d'autres sources, des informateurs dont il donne parfois les noms, donc évidemment on voit des informateurs oraux, des bardes, des récitateurs professionnels, et d'autres informateurs dont on aimerait bien connaître le nom, comme un mystérieux, ou plutôt une mystérieuse amie. Vous savez qu'en persan, il n'y a pas le genre, donc on peut interpréter le genre comme on veut. Et il parle d'une compagne mystérieuse au début de l'épisode de Bijan et Manigé, encore un prologue. Et le poète commence par dire qu'il fait nuit noire. Le lecteur habitué à la manière dont Ferdowsi donne le ton dans les prologues, il voit évidemment l'obscurité du puits dans lequel Bijan sera jeté. Et s'il y a une allusion à Bijan dans son puits, l'allusion à Manigé n'est pas bien loin. Le poète dit qu'il est triste, qu'il va chercher une chandelle, et celle qui lui éclaire sa nuit est une ou un mehraban, mais j'ai quand même tendance à dire une douce qui vit dans sa maison, elle lui offre du vin, des fruits, et lui propose de lui faire une lecture, la lecture d'histoires anciennes dans un livre Pehlevi, que le poète devra mettre en vers. بپیمای می تا یکی داستان ز دفترت برخوانم از باستان. بدان سروبن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بگوی. مرا گفت گرچون ز من بشنوی، به شعر آری از دفتر پهلوی. Et donc, si l'on file la métaphore de Bijan et Maniget, de même que Maniget devra apporter de la nourriture à Bijan emprisonné dans son puits pour le maintenir en vie, il me semble que la lectrice, la muse de Ferdowsi, la nourrit elle aussi d'inspiration épique et amoureuse pour qu'il puisse continuer à composer. Le dernier roi mythique de l'Iran, Egoshtasp, qui, après quelques vicissitudes tristaniennes, ici il est en train d'arracher, non pas la langue, mais les dents du dragon, va enfin se montrer digne de monter sur le trône. Il a un frère, Zarir, aussi brave et sans doute plus sage que lui. Tous ces personnages se trouvent, bien entendu, déjà dans l'Avesta, comme beaucoup d'autres caractères du Shahnameh, mais Egoshtasp et Zarir sont présentés ici comme des frères. Dans l'Avesta, Egoshtasp et Zarir ne sont pas des frères. Ils se succèdent. Zarir vient après Egoshtasp dans la liste des sacrifiants à la déesse Anahita. Et ils ont en commun une chose, c'est de demander comme faveur à la déesse de vaincre un certain Arejat Aspa. C'est notre Arjosp dans le Shahnameh. Zarir porte une épithète qui lui est propre, qu'on ne retrouve pour aucun autre personnage de l'Avesta, il est Aspayaosa, il est celui qui combat à cheval. Et ce détail va compter dans la suite de ses aventures. Alors, à ce point de la narration, avec Egoshtasp, Ferdowsi dit reproduire 1000 vers du début du Shahnameh que son prédécesseur, Dariri, n'a pas eu le temps de mener à terme. Le premier événement qui marque le règne de Egoshtasp, comme vous le savez, est l'apparition de Zoroastre, Zaradahasht ou Zardehosht dans le Shahnameh. C'est une forme imposée par le maître prosodique qui va déformer un certain nombre de mots. Donc l'apparition de ce Zoroastre et de la religion qui est comparée dans ce texte à un cyprès. Des vers 39 à 85 de l'histoire de Egoshtasp, on a un florilège, des expressions et de termes directement empruntés au vocabulaire zoroastrien, faisant référence aussi bien à l'idéologie qu'à des aspects rituels, qui montrent aussi une très très bonne connaissance du vocabulaire technique, comme par exemple la célébration d'un office qui comprend un sacrifice, ce qu'on appelle le yasht, dans le vers que vous avez ici à l'écran et qui appelle à suivre la voie de Zoroastre plutôt que celle des idoles de Chine. Begirid pand astam zardahasht, besouye bote chin madorid yasht. Suivez donc les conseils de Zoroastre plutôt que de faire des sacrifices aux idoles de Chine. Alors, voilà, quelques-uns des exemples de cette terminologie sont ici. Elles ne sont pas spécifiques à ce passage de Egoshtasp, on les retrouve ailleurs dans le Shahnameh. Alors, évidemment, vous me direz qu'il n'est pas très surprenant de trouver ces termes décrivant la religion iranienne ancienne dans un passage qui justement lui est dédié, qui raconte l'arrivée de Zoroastre, la conversion de Egoshtasp et celle de Zarir, etc. Mais qu'en est-il dans la suite de l'histoire ? Cette conversion au zoroastrisme va susciter le mécontentement de l'ennemi touranien, de Arjasp, et c'est la chose qui va mettre le feu aux poudres. Le récit de cette bataille, dont le héros principal est Zari, le frère du roi iranien, a un parallèle textuel, repéré déjà depuis longtemps, au sein du corpus des écritures zoroastriennes en moyen perse. Ce n'est pas le seul récit qui soit commun aux deux corpus, il y en a quatre. Donc ce récit épique qui raconte la mort tragique de Zarir dans la première guerre de religion entre l'Iran et le Touran, le Shahnameh va parler des Turcs de Chine, alors que le texte au moyen perse préférera le terme chionique, il est un. Donc évidemment un emprunt à l'avostique Riahona. Ce texte a été étudié par Émile Benveniste en 1932. Il a été le premier à y voir les traces d'une littérature poétique en moyen perse. Il y reconnaît aussi les convergences de style avec le chant nommé de Ferdowsi, mais persuadé que la base de sa versification était syllabique et que les strophes étaient des hexasyllabes, il a entièrement réécrit le poème, donc on ne peut pas utiliser le travail de Benveniste aujourd'hui, car il a élagué tout ce qui dépassait les hexasyllabes. Donc son analyse est très critiquée, n'est plus acceptée aujourd'hui. Je vous renvoie aux travaux, aux critiques de Walter Bruno Henning, et puis plus tard Gilbert Lazare qui a repris toute cette question de la métrique. Il n'en reste pas moins qu'il s'agissait certainement d'un poème en langue parthe qui a été réécrit à l'époque sassanide en gardant seulement quelques traits poétiques. Comme on l'imagine, peu de chercheurs ont su résister au désir irrépressible de mettre en regard le texte de Ferdowsi et la version moyen-perse et de les comparer systématiquement, bon, avec plus ou moins de succès. Alors, les conclusions qu'on a tirées sont que le texte moyen-perse n'est pas la source de Ferdowsi, mais qu'une bonne partie des figures de style, les métaphores, les hyperboles, les parataxes, etc., et d'autres caractéristiques du style épique sont déjà là. On a donc la même histoire fondue dans deux moules différents, celui de la guerre sainte, de la glorification du martyr mort pour sa foi dans la version moyen-perse, et la geste héroïque et épique pour Ferdowsi. Autre parallèle textuel, la geste d'Ardashir, qui raconte la victoire du fondateur de la dynastie sur le roi Parthe, et aussi l'installation des temples du feu, donc la composante zoroastrienne est très présente dans les deux versions. On s'accorde à dire que là encore, les deux textes se basent sur des versions proches, mais non identiques. En troisième point, la littérature de sagesse, qui est aussi très présente à la fois dans le Shahnameh et dans le corpus moyen perse. On a les conseils attribués au vizir du roi sassanide Khosrow Ier, Vuzurgmehr ou Bozurgmehr en persan, qui sont communs aux deux. Contrairement à un texte narratif, ces conseils sont composés sous forme de dialogue, avec des phrases très courtes, mais l'ordre est quasi identique dans les deux versions. Donc, on voit que Ferdowsi se base ici sur un texte extrêmement proche de la version moyen-perse. Ferdowsi avoue lui-même trouver cette littérature fort ennuyeuse, Kore Delgir, et qui remercie Dieu quand il s'en est débarrassé. Enfin, le quatrième texte en commun est la très célèbre légende d'échange de jeux de table, la création des échecs et du tric-trac entre l'Iran et l'Inde, qui implique encore une fois le même vizir Bozorgmer. Et là, je ne tiens compte seulement des textes entiers, on peut certainement relever des très nombreux textuels, lexico-formulaires, stylistiques et autres. On remarque d'emblée que ces quatre textes moyen-perses qui ne sont absolument pas de la même nature. Hein. Vous voyez, on a une épopée, on a une geste royale, on a la parénèse, et puis on a un mythe d'édification. Ils ont une chose en commun. Ils se trouvent dans le même manuscrit. Dans le codex MK, un codex copié au Gujarat en 1322 par un prêtre venu d'Iran, qui est une anthologie de 32 textes, avec donc de la littérature de conseil attribuée à des sages ou des rois, de la littérature presque profane, en tout cas religieuse, mais non dogmatique, qui garde un caractère religieux, bien qu'enrobée dans des légendes, dans des narrations, etc. Et ce codex MK a une histoire digne du mythe du livre dispersé, puisque lui aussi a été dispersé au siècle dernier, retrouvé, il a échappé à un incendie, et puis finalement, bon, aujourd'hui, il repose tranquillement et presque complètement à Cambridge. Il va bientôt faire l'objet d'une édition en fac-similé. Alors, je vous propose à présent une lecture comparée des deux versions. Il faut savoir que l'Ayodhegor et Zareron, donc la version moyen-perse, compte 3600 mots et le Shahnameh environ 700 vers. Donc la version du Shahnameh est bien plus détaillée et plus complète, notamment dans la description des batailles. On peut séparer cette histoire en quatre chapitres. Les personnages importants de l'histoire sont Vishtasp, Gochtasp, le roi iranien, secondé par son vizir Djamasp et son frère Zarir. Dans le camp adverse, nous avons Arjosp, qui a pour champion Vidrafsh, qui est le meurtrier de Zarir, et un autre personnage, Namhast. Le roi a pour fils Isfandiyar, comme vous le savez, et Zarir va être vengé par son fils Bastur. Alors voici un résumé du premier épisode. Le roi Vishtas, sa famille et sa cour se convertissent à la religion zoroastrienne. Le roi des Kyonites, Arjos, s'en trouve très inquiété et envoie Vidrafsh le sorcier et Namkhost vers l'Eranjar, vers le royaume iranien. Le vizir Djamasp en informe le roi. Le vizir Djamasp est en fait c'est un vizir visionnaire, c'est un astrologue, un devin, qui a la capacité de voir les choses, le présent, le futur et l'avenir à sa guise. Les deux envoyés apportent un message. La composante épistolaire est très importante dans ce récit. Si vous abandonnez votre foi, nous vous servirons, nous vous offrirons or, argent, chevaux, trésors, etc. Sinon, nous dévasterons et brûlerons votre empire. Zarer demande au roi à faire la réponse. Il insiste pour que ce soit lui qui rédige la lettre. Nous n'abandonnerons pas la pure religion d'Ormaz. Et la pure religion d'Ormaz va être le leitmotiv de toute l'histoire. Ça va être répété pratiquement à chaque vers. Préparez-vous à périr comme les démons périront de la main des dieux. Une phrase qui évoque évidemment la littérature apocalyptique zoroastrienne au combat final de la fin de l'histoire mythique de la religion iranienne. Alors, Zarer va rassembler les troupes, tout homme de 10 à 80 ans, sauf les mages. Évidemment, on le sait, la classe sacerdotale est exclue, n'est pas autorisée à prendre les armes, donc c'est des choses qui font sens, lorsqu'on connaît bien la religion. Donc, toute l'armée est prête, et la colonne, le mot pour colonne est koravan, caravane de l'Iran, qu'ont tant de guerriers que leurs cris vont au ciel, leurs pas jusqu'à l'enfer. Ils rompent les sentiers et troublent les rivières si bien que pour un mois, on ne peut pas en boire l'eau. Le jour ne brille plus, les oiseaux ne se posent plus que sur la tête des chevaux, sur la pointe des lances ou sur la cime des monts. Jour et nuit se confondent. Vishtasp ordonne à Zarer de dresser le camp. Dans la version du Shahnameh, que se passe-t-il? D'abord, elle est beaucoup plus détaillée, elle compte plusieurs centaines de vers, qu'il est difficile de résumer en quelques lignes, mais je vais quand même essayer. La différence majeure, c'est que c'est Zoroas lui-même qui est à l'origine du conflit. Il fait remarquer au roi que les ancêtres n'ont jamais payé de tribut à ces Turcs et que ce n'est pas une raison pour commencer. Après, on remarque aussi qu'il y a une violente critique d'Arjasp envers Zoroastre. C'est un sorcier qui se prétend prophète, qui dit qu'il a rencontré Dieu au paradis pour se faire dicter le Zand et l'Avesta. La lettre que fait Arjasp à Vishtasp s'ouvre sur des conseils assez bienveillants. Il veut ouvrir les yeux des Iraniens qui ont été égarés par un vieillard fourbe. Et il conseille à Vishtas de rester fidèle à la religion de ses ancêtres qui ont été choisis par Ormazd, Barovardeye Ormazde Mehin, Negorandeye Oseman Ozamin, qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc finalement, Arjasp est plus mazdéen que Zoroastre. Mais donc tu n'es pas digne de ça, car lorsque Dieu t'a fait roi, tu t'es laissé tromper par ce vieux sorcier. Azan paske izat tora shah kard, yeki pire jadut birah kard. Et c'est là que commencent les menaces et que la guerre va véritablement éclater. Vishtasp reçoit la lettre, il est très en colère, il demande audience, mais il demande aussi des feux. Il demande qu'on dispose devant lui des feux. Il ordonne également qu'on lui dépose l'Avesta, et le Zand devant lui, il demande que le prophète soit présent à ses côtés, il leur demande conseil. Le reste de l'histoire est beaucoup plus développé que dans la version moyen-perse. La différence majeure, c'est que Zarir, le frère du roi, est constamment accompagné d'Isfandiyar, son neveu. On remarque aussi que l'armée d'Arjosp est comparée à celle des démons, à Ahriman, la littérature, les références démoniaques sont constamment présentes pour décrire l'ennemi. Et ils se meuvent à la manière de la colère. Ce vers persan n'a absolument aucun sens si l'on ne sait pas que la colère est en fait le démon Haeshma, Haeshma de l'Avesta. Haeshma à la bannière sanglante, c'est un démon bien identifié dans l'Avesta qui donne son nom finalement à une abstraction. L'hyperbole du jour et de la nuit qui se confondent est repris à cause de la poussière évidemment soulevée par les chevaux, les sabots des chevaux, est également quelque chose qu'on retrouve dans Ferdows. Alors je passe à l'épisode suivant. Ce sont les prédictions de Djamaspe. Le roi va lui demander de décrire l'issue de la bataille. Mais il y a un problème, car l'issue de la bataille est tragique. Et pour se préserver de la colère du roi, son vizir Djamaspe lui demande de jurer par le Huara, donc la gloire, charisme, ce que vous voulez d'Ormazd, par la religion mazdéenne et par la vie de Zarir, qu'il ne le tuera pas, qu'il ne se mettra pas en colère contre son ministre. Et commencent les prédictions de Djamaspe, qui commencent par une description apocalyptique. La mère ne reconnaîtra pas son fils, les fils ont perdu leur père, etc. C'est un motif qu'on retrouve aussi dans la littérature apocalyptique zoroastrienne. Et il lui prédit aussi que Vidrafsh tuera son frère Zarir et que 23 des membres de sa famille mourront. Vishtaspe tombe de son trône, il s'évanouit en entendant cette prédiction et il va se ruer sur Djamaspe pour le tuer. Tous ses chevaliers sont présents pour le redonner, le ramener à la raison. Et la seule chose qui le ramène à la raison, c'est l'évocation d'Esfandior, qui va jurer lui aussi par la religion zoroastrienne, par la vie du roi, qu'il va faire périr l'ennemi. Alors, je vais passer sur les détails, mais je vais simplement vous rappeler quelques éléments que l'on retrouve dans le Shahnameh ou pas. À la différence de ce texte, dans le Shahnameh, Djamaspe n'est pas un bidarche. Le terme bidarche est un titre plutôt politique que religieux. Dans le Shahnameh, il est le chef des mages et le chef des juges. Donc, c'est vraiment il est presque autant de dignité religieuse que Zoroastre lui-même. Et en sa qualité de mage, il est également astrologue. Et la prédiction qu'il fait est le déroulé du combat, chose que l'on n'a pas. Les deux épisodes ici sont agencés d'une manière différente. Ferdowsi précise aussi que Zarir a constamment avec lui un exemplaire du livre de l'Avesta, en version Zand, en traduction, dans sa poche, et qu'il le lit tout en guerroyant. Mais cela ne suffira pas à le maintenir en vie, car il sera frappé de dos par une flèche empoisonnée, la flèche empoisonnée de Bidrafsh, qui est la manière la plus vile et la plus lâche de tuer quelqu'un. Là encore, on a le motif de l'évanouissement du roi, mais bon, il se résigne et la bataille peut commencer. Je reviens au texte moyen perse. Le commandant Zarir s'élance dans la bataille contre l'ennemi comme le feu Odur, le dieu du feu, le dieu Odur qui fond sur les roseaux aidé par le vent. Évidemment, ce sont des divinités zoroastriennes auxquelles Zarir est ici comparé. Arjasp le voit, il prend peur, il est pris de panique en voyant la force de cet adversaire, et il promet sa fille à celui qui l'en débarrasserait, qui parviendrait à le tuer. Et vous le verrez que ce motif du roi qui va proposer sa fille à celui qui montrerait de la bravoure est aussi un motif commun aux deux et extrêmement récurrent. Vidrafsh prend alors une lance, peut-être le mot est mal établi, en tout cas une arme métallique, ensorcelée par les démons en enfer, empoisonnée par la colère et polie au péché. On a là une condensée de tout ce que les pouvoirs destructeurs d'Ahriman sont capables de faire en un seul objet. Il n'ose pas affronter Zarir de face, il l'assaille par derrière, le frappe en haut de son costig, c'est-à-dire sa ceinture rituelle. Le seul qui trouve assez de courage pour le venger est Bastur, son fils. Mais comme il est trop jeune et inexpérimenté, on l'empêche d'aller au front. Mais il va secrètement demander un cheval aux écuries du roi. Il va demander le cheval que montait Zarir quand il était enfant. et il retrouve sur le champ de bataille le corps de son père et entonne alors une élégie funèbre dans laquelle on retrouve des rimes, des traces de poésie, mais le texte a été tellement retravaillé et tellement mal transcrit qu'il y a beaucoup de zones qui ne sont pas lisibles. Bastur, après avoir trouvé le corps de son père, revient, demande l'autorisation de le venger et on le laisse retourner sur le champ de bataille en lui donnant une flèche qui provient du carquois royal sur laquelle, pour la flèche pour laquelle Vishtas va réciter une incantation. Et là, encore une trace de poésie, l'incantation de la flèche, la flèche qui fait pendant à la flèche venimeuse et démoniaque du début de l'histoire. Les parallèles du Shahnameh sont très proches. On a exactement la même image de Zahir qui fond sur l'armée, qui est comparée au feu et au vent. On a également Belashkar gah doshman andar Belashkar gah doshman andar fetad cho andar giya atash o tiz bad. Là, il n'y a pas de trace de divinité zoroastrienne, mais le feu et le vent sont là. On trouve également une différence importante, c'est que ce n'est pas Bastur qui va venger Zahir, mais c'est Esfandior qui prend les choses en main, qui va se battre contre Vidravsh. Souvenez-vous qu'Esfandior est un héros invincible qui ne peut être tué que par Rostam. On n'a pas l'incantation de la flèche, il y a d'autres formules qui sont prononcées par le roi. Dans l'épisode suivant, Bastur parvient à venger son père. Il est monté sur le cheval de Zahir. Il prend la même flèche. La chose qu'il faut rappeler ici qui est importante, c'est que lorsque Vidravsh parvient à tuer Zahir, il va le dépouiller de son armure et surtout lui voler sa monture. Et cette monture va jouer un rôle important dans la suite de l'histoire. Car lorsque Bastur le provoque et veut venger son père, Vidravsh, monté sur le cheval noir de Zahir, arrive de face. Cette fois, il n'a pas peur, il va l'assailler de face. Mais lorsque son cheval, qui est le cheval de Zahir, entend la voix du jeune Bastur, il s'arrête net, littéralement, il le freine de quatre fers, et hennit 999 fois. Vidravsh décoche une flèche et Bastur l'attrape avec la main. À ce moment-là, l'âme de Zahir apparaît et lui dit de lâcher cette flèche empoisonnée et de prendre une flèche dans son propre carquois pour viser Vidravsh au cœur et il le tue. Deux points ici méritent d'être commentés, qui ne sont pas repris dans le Shahnameh. Dans le texte moyen perse, il est le plus question de chevaux. C'est le texte qui parle le plus de cheval que tous les autres textes moyen perse que je connais. Peut-être est-ce là une réminiscence de son attribut avestique, celui qui combat à cheval. Et donc, ce serait cohérent de voir que les mesures de représailles sont efficaces ici, non seulement à cause de la dévotion de son fils, mais surtout par l'intervention du fidèle destrier, qui réagit si violemment à la vue du fils de son propriétaire, qu'il déstabilise son cavalier et que ce dernier n'est plus capable de viser correctement sa cible, c'est-à-dire le jeune Bastur. Cet épisode est évidemment absent du Shahnameh, c'est pour la bonne raison qu'Esfandior, qui prend le rôle de Bastur dans cette histoire, est invincible. Il esquive sans peine, miraculeusement, la flèche de Vidravsh. Donc il y a une incohérence ici, parce qu'on n'a pas compris cette histoire de l'intervention du cheval dans le texte original. L'âme de Zahir qui apparaît pour mettre en garde son fils, il s'agit du mot Rovan, donc en contexte zoroastrien, c'est l'âme moi, l'âme eschatologique, qui attend le quatrième matin de la mort. Et l'office des prêtres pour pouvoir commencer son voyage. Donc là, il n'y a pas eu d'office pour Zahir et son âme erre encore dans le champ de bataille. Alors, évidemment, si ce passage est absent du Shahnameh, c'est à mon avis parce qu'il n'est pas compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas le zoroastrisme ou qui n'est pas familier des doctrines et des croyances eschatologiques et des différentes étapes du devenir de l'âme après la mort. Et sinon, on se demanderait ce que vient faire ce fantôme en plein milieu du combat. Donc ces détails ne faisaient sans doute plus sens ni pour Ferdowsi ni pour Dariri, sans doute pas non plus pour la source de ce dernier. Ça montre aussi que Dariri, comme on l'a souvent dit, n'était pas un zoroastrien, sinon il aurait connu ces notions par cœur. Les parallèles du Shahnameh sont assez proches pour le reste. Bastur est constamment accompagné des Sfandior. Bon, il y a quelques divergences dans la narration. C'est encore Esfandiol qui va recueillir l'armure et le cheval de Zarir et qui le ramène au camp. Bastur se voit confier un tiers de l'armée, tandis qu'Esfandiol se lance à la poursuite d'Arjosp, qui mourra beaucoup plus tard dans l'histoire. Ce qui m'amène à quelques conclusions qui ne peuvent être que provisoires, puisqu'il faudrait les compléter évidemment compléter cette étude avec une comparaison systématique des trois autres textes moyens perses avec leurs parallèles dans le Shahnameh. Mais d'abord, il me semble évident qu'il faut distinguer entre les divergences purement formelles de celles qui concernent le style ou le genre. N'oublions pas que la contrainte métrique que se sont imposées Dariri et Ferdowsi, le maître dit Motéroreb, les oblige à modifier, voire défigurer certains mots. On a vu Zardohosht au lieu de Zardosht, mais il y a aussi très nombreuses des structures syntaxiques qui ont été remodelées pour rentrer dans le rythme. Et donc ils ont dû laisser de côté tout ce qui ne pouvait pas se plier à cette contrainte métrique. Cela les limite donc dans leur choix de vocabulaire. Les mots doivent être brefs, percutants, cinglants, dignes de l'épopée. Et c'est là une autre limitation qui est celle du genre. L'épopée a ses propres codes, ses propres logiques narratives, sa propre rhétorique, et s'y soumettre implique forcément des choix, choix qui n'ont rien à voir avec les tendances religieuses de leurs auteurs. Le récit de Zarir que je viens de résumer ne paraît pas avoir subi de transformation pour s'adapter à un lectorat musulman. Je crois au contraire qu'il conserve toute son essence zoroastrienne, et ce zoroastrisme n'est pas un élément simplement exotique ou artificiel, la terminologie est clairement choisie, comprise et parfaitement assumée. J'irai jusqu'à dire que la version de Ferdowsi est peut-être plus zoroastrienne que la version moyen-perse. Alors que ce dernier se présente comme une tragédie sans doute destinée à être chantée et mise en scène comme dans le théâtre religieux du chiisme, le tazier où l'on célèbre le martyr innocent, la version de Ferdowsi met l'accent sur celui qui incarne le guerrier idéal étant Esfandior, celui qui est le seul à réunir à la fois le courage et la foi, et qui se voit confier le rôle de répandre la nouvelle religion. Pour rester dans l'esprit d'un livre par Shahrukh Meskoub, livre qui a ouvert les yeux de toute une génération sur l'interprétation du récit de Rostam et d'Esfandior, on pourrait affirmer que le zoroastrisme cesse ici d'être un simple élément de l'intrigue et qu'avec Ferdowsi, il devient le principal schéma narratif, le fil conducteur qui accompagne l'invincible Esfandior vers sa destinée, mourir en combattant seul face à son alter ego silstanien, Rostam. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos commentaires et vos critiques et vos remarques.